about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Sarah Hellermeyer, Corinne Rondeau, Stéphane Corrère, pour parler ensemble de l'exposition consacrée à Isidore Izou au Centre Pompidou. La collection Émile Burle, c'est au musée Mayol. Thomas Hausego, Almost Human, c'est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Puis il y aura un coup de cœur de Corinne Rondeau pour l'exposition René Daniels au MAMCO à Genève. Nous ouvrons cette dispute avec l'exposition Isidore Izou, exposition qui s'inscrit dans le cadre de la saison roumaine au Centre Pompidou, même si l'on pourrait se dire qu'elle dépasse largement ce cadre, mais on pourrait se demander aussi s'il n'y avait pas eu cette saison France-Roumanie, y aurait-il eu cette exposition Isidore Izou? Bon, on ne va pas trancher cette question ce soir, mais on va profiter de cette exposition pour voir si elle sort d'un relatif oubli, l'inventeur du lettrisme dont Isidore Izou pose les bases dans un manifeste intitulé « Introduction à une nouvelle poésie, à une nouvelle musique », un texte qui sera publié à la NRF en avril 1947, notamment grâce au soutien de Raymond Queneau, de Jean Cocteau, de Jean Paulhan, de quelques autres. Quelques mots introductifs et rapides de Stéphane Corrère. Pourquoi est-ce que vous attendiez, avec une impatience que vous n'avez pas dissimulée, ni devant ce micro, ni sur les réseaux sociaux, impatience pour cette exposition Isidore Izou?
Je l'ai un peu moins attendu qu'Isidore Izou, parce que lui, malheureusement, ne l'aura pas vu, parce que c'est effectivement un artiste qui est finalement mal connu, qui reste dans l'histoire, notamment parce qu'on peut dire qu'il était l'inspirateur de Guy Debord. En tout cas, Guy Debord était fasciné par sa figure, et même s'ils ne sont pas compagnonnés très longtemps, ça a été décisif. Et donc, c'est la première exposition monographique qui lui est consacrée par une institution, et on en attendait effectivement beaucoup.
Alors, pour savoir ce qu'il faut attendre de cette dispute à venir, un premier tour de table, une phrase qui exprime votre ressenti sur cette exposition, et commencer par votre ressenti en une phrase, Stéphane Corrère.
Alors, je pense qu'il faut y aller parce qu'effectivement, beaucoup de gens vont découvrir Isidore Izou. Après, je pense que c'est un peu une occasion manquée. C'est une exposition qui rajoute de la confusion à une certaine confusion qui peut-être déjà régnait dans l'esprit du public pour ceux qui les connaissaient ou qui en avaient entendu parler des lettristes. Et surtout, ça perpétue la lutte de clans du lettrisme qui parfois peut virer à la secte et que cette exposition ne profite pas pour dénouer.
Ouf, ça c'est déjà très construit comme première impression. Corinne Rondeau sur
Isidore Izou. Je suis pas d'accord. Non, je suis très heureuse de cette exposition parce que c'est retrouver la vitalité d'un outsider, c'est toujours très agréable.
Enfin, Sarah Hellermeyer.
J'ai beaucoup aimé cette exposition également et je crois que elle permettra de découvrir ou de redécouvrir à la fois un artiste et un théoricien et qui a annoncé des inflexions majeures dans l'histoire de l'art.
Corinne Rondeau, comment cette exposition est-elle conçue? Quel est son parcours, ses grandes lignes, avant de revenir un peu dans le détail?
Alors, on va dire qu'il n'y a pas de grandes lignes. C'est plutôt organisé autour d'une sorte de pensée totalisante du travail de Isidore Izou, qui touche effectivement à toutes les pratiques, toutes les techniques, que ce soit le lettrisme, la poésie, que ce soit la peinture. Mais c'est pas une peinture comme on peut l'attendre. C'est pas du cinéma comme on peut l'attendre. Donc on a à peu près tout. Ça va de la peinture en passant par des pictogrammes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je trouve que pour ceux qui ne connaissent pas Isidore Izou, l'entrée nous fait déjà rire dans cette vision qu'il a d'une méthode izouzienne qui est de l'allongement de la vie. Donc moi, j'ai beaucoup ri déjà à cet endroit-là parce que c'est une manière de rentrer à la fois dans le lettrisme qui renvoie à la lettre et en même temps, c'est de la peinture. Et puis, le parcours, il nous met vraiment dans une perspective, je dirais, là, pour le coup, liée à une dimension très performative chez Isidore Izou, dont on ne l'attend pas quand on le connaît. Donc, c'est une exposition qui, à la fois, joue dans le concentré, parce que c'est une œuvre qui est concentrée sur elle-même, un peu comme un atome, on va dire, et à la fois morcelée et éclatée. Il y a une sorte de kaléidoscope, mais qui revient en fait à cette créativité généralisée du lettrisme.
Le commissaire, c'est Nicolas Liutchi-Goutnikov qui est assisté de Diane Toubert pour cette exposition, parce que ce parcours, cet accrochage, ces grandes lignes, quand même, qui existent justement de faire totalisant. Comment est-ce que vous avez compris Sarah Ellermeyer, son projet? Est-ce que ce projet, l'exposition, ressemble à ce projet pour vous?
Je crois que le projet de cette exposition, c'est de permettre de réévaluer l'importance d'Isidore Rizou dans l'histoire de l'art. Et c'est plutôt réussi, parce que ce qui est fascinant avec Isidore Rizou, et c'est ce qu'on découvre dans cette exposition, c'est de voir à quel point il a annoncé et mis en pratique des courants artistiques, à commencer évidemment par la poésie sonore, avec ses poèmes lettrices qui peuvent être composés de hoquets, de gémissements ou de claquements de langue, qui sont destinés à être lus, scandés, voire chantés. Il a aussi, avec son film réalisé en 1951, Traité de bave et d'éternité, annoncé la pratique du found footage, qui consiste donc à récupérer des bandes visuelles préexistantes pour les réagencer dans de nouveaux films. Donc la liste est très longue, des courants et des pratiques qu'il a annoncées. On peut même ajouter, je pense, quelque part l'art conceptuel, qui apparaît dans les années 60. Et lui, dès 1956, il développe l'idée d'un art infinitésimal, qui intègre la possibilité de signes virtuels, visibles ou invisibles, c'est-à-dire en fait d'œuvres dématérialisées qui peuvent consister simplement dans des notations écrites sur des toiles blanches ou sur des feuilles de papier. Et puis, il a aussi poussé à son paroxysme en fait l'héritage du ready-made, avec son principe de méca-esthétique, qui prône en fait l'utilisation de toutes les ressources à la disposition de l'artiste, aussi bien des objets ordinaires, des matières animales, végétales. En ce sens-là, je trouve qu'il anticipe un peu sur Robert Rauschenberg, qui produira ses premières combined paintings en 1955. Et puis, peut-être pour finir sur cette liste, il a une pièce de 1964 qui consiste en des toiles superposées les unes sur les autres, sans cadre et sans châssis, accroché au mur avec une simple baguette. Et ça, c'est comme s'il annonçait dès 64, eh bien, Support Surface, qui est un courant français de la fin des années 60, début des années 70, et qui consiste justement à décomposer les éléments de la peinture. Et tout se passe donc parce qu'il se présente lui-même comme une sorte de prophète et de visionnaire. Et je trouve que c'est un peu le cas, quand même. Et ça donne presque l'impression qu'il aurait vécu dans le futur et qu'il se serait télétransporté dans le passé, fort de toutes les pratiques et les courants contemporains qu'on connaît aujourd'hui.
En 51, vous le disiez, Traité de bave et d'éternité est présenté en marge du Festival de Cannes, c'est pas la sélection officielle. Cette bande d'images, vous en avez parlé, il faut dire que la bande-son est dissociée, ce qui est une des particularités aussi de ce film. Jean Cocteau a signé l'affiche. Dans la salle se trouve notamment Guy Debord. On écoute un extrait.
D'autres batterie, d'autres boutres, d'autres boutre, vitre, quatre, voutre, boutre, hectre, vectre, plectre, gectre, extra vectre, plectre, gectre, têtre, dans têtre, c'est un adonc, cêtre, c'est un adonc, c'est un têtre, pouc, pouc, empil, surjoux, sempalex, sempalex, ogorax, pempre, yogogrix, oling,
Voilà, Isidore Rizou, tel qu'en lui-même, c'est normalement au saut du lit, ou presque, dans ce traité de bave et d'éternité. Stéphane Correr, rendez-vous manqué pour vous?
C'est très bien que vous ayez passé cet extrait sonore, parce que justement, c'est comme ça qu'on arrive dans l'exposition, effectivement, en voyant le traité de bave et d'éternité, et le son est un murmure. Pas du tout comme on vient de l'entendre, alors que justement, la bande-son est un hurlement.
Ça éructe.
D'ailleurs, c'est ce film qui ouvrira la voie à Debord pour ses hurlements en faveur de Sade. Mmh. Et là, on comprend tout de suite que l'exposition est un petit peu anesthésiée, qu'on n'est pas dans la vitalité de la pensée isouyenne, qui, comme l'a dit Sarah, est effectivement une sorte de prophète, une sorte de gourou. Je parlais de secte, c'était évidemment de manière sympathique, c'est pas une secte dangereuse, mais déjà, ça repose sur un vocabulaire que Sarah a commencé à expliciter, mais que l'exposition n'explicite pas. Donc je trouve que c'est assez difficile pour le visiteur vraiment de s'y retrouver, et notamment ce qu'on entend sur la bande-son, c'est un concept qui est très opératif chez Izou, c'est la discrépance, et donc dans le film notamment, ça lui permet de disjoncter le son et l'image qui pour la première fois ne correspondent pas, et ça lui offre en fait une infinie de possibles, parce que effectivement, ce qu'il vaut bien voir, c'est que Izou, c'est quelqu'un qui va élaborer comme ça sa caisse à outils de concept, qui peut lui servir à tout révolutionner. Parce que ce n'est pas évidemment qu'un peintre, donc l'exposition, fort logiquement, parce qu'on est dans un musée d'art plastique, se focalise sur la dimension picturale de sa production, mais c'est quelqu'un qui a écrit sur les mathématiques, sur les sciences sociales, sur la politique, et qui entendait révolutionner la totalité de la pensée humaine et de ses champs d'application. Donc c'est quand même très très ambitieux, c'est moins qu'on puisse dire. Ça passe effectivement par un certain nombre de concepts concepts qui souvent sont désignés par des néologismes. Hein. Par exemple, il pense que toute activité humaine, et notamment créatrice, est découpée en deux périodes historiques, hein, l'amplique et le ciselant. Et donc, c'est l'amplique, c'est l'évolution naturelle des disciplines formelles, de construction, d'enrichissement. Et puis ensuite arrive, alors ça c'est Izou évidemment, qui arrive le ciselant, qui intériorise, réorganise et aboutit finalement à anéantir les valeurs anciennes pour créer un monde nouveau. Bon, évidemment, on peut aussi le comprendre, et d'ailleurs, c'est aussi passé sous silence dans l'exposition et dans le catalogue, mais il y a une dimension psychiatrique dans la personnalité d'Izou et dans sa vie qui n'est pas, qui n'amoindrit pas du tout ses qualités, mais qui permet quand même aussi de comprendre beaucoup de choses. Ce qui est vrai, je rebondis sur ce qu'a dit tout à fait Sarah, c'est que c'est un vrai inventeur, c'est pas du tout un commentateur, comme malheureusement à certains endroits l'exposition, à mon avis, laisse supposer, parce que justement, il n'est pas assez mis en avant dans sa dimension novatrice. Enfin, il me semble pour le public, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai senti. Et bien qu'il y ait des grandes réussites formelles, hein, par exemple les photographies retouchées, par exemple de 1952, il y a effectivement, mais c'est évidemment pas un peintre au sens classique du terme.
Mais ce qui est très étonnant dans la figure d'Isidore Izou, alors que j'ai pu croiser dans cette maison de la radio, parce qu'à une époque où il était très, très, très présent dans les nuits magnétiques, où il y avait un des clans des lettristes qui faisait régulièrement des émissions sur, avec, autour, pour, par Isidore Izou. Ce qui est très étonnant quand même, il faut rappeler qu'il arrive à Paris, il a 20 ans, on est en 1945, donc c'est quand même... Avoir 20 ans en 45, c'est sans doute une chance après avoir été une très grande difficulté. Mais il pose quand même des bases théoriques qui peuvent être l'apanage de très jeunes gens qui ont envie de tout changer, tout bousculer. Sauf que lui, il va quand même mener à bien beaucoup, beaucoup de choses. Et que sa pensée, en effet, elle est quand même très agissante dans beaucoup des disciplines, des champs, des pratiques artistiques. Corinne Rondeau, est-ce que c'est pas quand même une des particularités? Et moi, je m'étonne, justement, à partir de cela, que Isidore Izou soit si méconnu, parce qu'on a quand même une sorte d'artiste au total, le génie précoce et qui insiste.
Oui, peut-être, mais Debord a pris quand même il lui a damé le pion.
Il a tiré la couverture aussi.
Très largement. Je pense aussi que
c'est vrai. Mais Debord, tout le monde s'en réclame sans que personne le lise. Donc c'est un peu.
Non, mais ça, c'est un trait assez banal dans la culture. Donc,
ça fait longtemps que ça dure.
Moi, ce que je trouve vraiment dans cette exposition. Bon, moi je connais un peu, mais très peu, le lettrisme. Je suis très attachée au traité de Bave et d'Éternité pour l'aspect ciselant et discrépant, parce qu'il n'a pas été reconnu par les Duras, les Godard, enfin. On peut voir dans cette exposition un certain nombre quand même de traits, parce que des tapisseries, il y en a des paquets, des lettres, on voit qu'il n'a pas cessé d'écrire. C'est des milliers et des milliers de pages. On voit que ce type n'a jamais cessé, qu'il a gardé un esprit de jeunesse, et moi il me fait vraiment penser à l'esprit de l'utopie d'Ernst Bloch, à cet endroit. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui a une intensité de jeunesse, quel que soit son âge. Et d'ailleurs, ces textes qu'il a écrits sur le soulèvement de la jeunesse, et cette phrase même qui dit « Mon objectif, c'est de vivre jusqu'à 10 000 ans et de retrouver ma tête entre 31 et 51 ans », je trouve ça formidable, parce qu'il est à cet endroit-là. Et même si on peut trouver que certaines pièces has-been datant d'une certaine époque, on n'arrive pas trop à caler sur 60, 50, on ne sait pas trop. Effectivement, je suis pas trop en accord avec Sarah, parce que je crois qu'il ne faut pas chercher l'analogie des formes qui viennent après Izou, et voir effectivement dans cette totalité, dans cette pensée, parce que inventer du concept, c'est pas reprendre le concept pour le redévelopper, le tirer à soi. C'est vraiment une entité, c'est vraiment une personnalité, c'est une singularité. Et moi, j'ai passé quand même un moment dans cette exposition où je n'ai vu que des coups d'éclair dans cette tête. Avec rien, il vous fait des trucs incroyables. Par exemple, les incrustations dans le brouillard, c'est juste travailler dans la peinture. Mais d'un coup, on voit que cette texture qu'il donne, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas le brouillard romantique, qui n'est pas le brouillard d'autre chose. C'est cette manière dont il fait de l'œuvre infinitésimale, où en fait, il y a juste écrit œuvre infinitésimale et vous avez un écran blanc. Et à côté, vous avez léché le mur, l'air et le vide, inventé la substance d'un goût neuf impossible. C'est ça, Izou. C'est-à-dire que moi, je n'ai vu que de l'énergie. Et quand je suis allée retrouver la collection du musée, je me suis dit, mais quel ennui! C'est-à-dire que là où je m'attends à retrouver ce que j'aime, Izou m'a quand même un peu fait péter les neurones. Et ça m'a fait un peu plus grand bien.
Sarah Hélermeyer.
Oui, bah, disons que plus que je trouve que de toute façon d'annoncer des courants et des pratiques artistiques contemporaines, ce qui me semble très fort avec Isidore Isou, c'est qu'en fait il annonce et met en pratique plutôt une inflexion majeure de l'histoire de l'art et qui est celle à proprement parler de l'art contemporain et qui consiste donc en fait finalement à s'affranchir d'une certaine logique moderniste qui a été théorisée par le critique d'art américain Clement Greenberg et selon laquelle eh bien chaque art devait se limiter à ses moyens matériels spécifiques à l'exclusion de tout ce qui ne lui appartenait pas en propre. Ce qui revenait par exemple pour la peinture à rejeter toute forme de symbolisme, de narration et de figuration pour se concentrer sur la surface plane, le pigment et la forme du châssis. Et bien qu'Isidore Isou il donne l'impression qu'il poursuit cette logique moderniste en voulant réduire la poésie à son degré zéro que serait la lettre, en mettant en fait en avant la lettre dans ses dimensions à la fois visuelles et discursives, et bien à mon sens il promeut en fait une nouvelle synthèse des arts qui donnera lieu justement à ses peintures, à ses dessins et à ses photographies dites hypergraphiques ou métagraphiques, qui sont autant à lire qu'à voir, parce qu'ils sont
composés. C'est pas la cladologie, hein, c'est pas une synthèse des arts.
Oui, bon, en tout cas, parce qu'ils sont ils sont autant à lire qu'à voir dans la mesure où ils sont composés de pictogrammes, de hiéroglyphes et de mots à déchiffrer, un peu comme des sortes de rébus visuels. Alors précisément, les rébus visuels, c'est ce qui caractérise, il me semble, une grande partie de l'art contemporain, dont les formes et les objets sont appréhendés à la fois pour leur aspect matériel, mais aussi pour les concepts qu'ils véhiculent, et donc en fait à déchiffrer un peu comme des signes ou des mots. Et en ce sens-là, je pense que l'inflexion majeure qu'il annonce, c'est que finalement, enfin, celle de l'art contemporain, ce qui serait non plus de vouloir traduire directement le monde d'une manière sensorielle et visuelle, mais traduire un rapport au monde qui serait déjà chargé en fait et filtré de représentations, de symboles et de signes. Voilà.
Est-ce que le visiteur lambda qui va arriver au Centre Pompidou ne connaissant pas Isidore Isou et les références que l'on peut faire autour de cette table va y trouver quand même son compte, Stéphane Correa, essayer d'avoir ce regard.
Je suis très heureux d'ailleurs d'entendre que mes deux consoeurs ont tant aimé l'exposition. Je pense qu'il faut absolument y aller parce que c'est effectivement une occasion sans doute unique. Mais il faut accompagner, à mon avis, la visite de lecture. Ce que l'exposition ne fait pas assez, à mon avis, il y a notamment l'usage des archives que je trouve très étonnant parce que les archives, les livres, il y a tous les romans de gare, par exemple, qui Isou a écrit pour faire des romans érotiques, un roman de gare pour survivre. Et on nous en épargne pas un. Dans le catalogue, il y a une photo d'une pile d'archives. On ne sait pas très bien ce que ça vient faire là. Alors qu'en réalité, on sent que le commissaire a été intimidé par cette figure énorme qu'a été Isou. D'ailleurs, quand je disais gourou, c'est vraiment le cas. Donc, deux petits conseils de lecture. Le premier, c'est Lipstick Traces de l'américain Glenn Marcus, publié il y a quelques années chez Alia et qui fait un lien entre notamment Dada, le punk et le lettrisme et qui montre comment cette histoire est toujours vivante. Et puis l'autre, c'est à mon avis le meilleur historien du lettrisme et d'Isidore Isou, Frédéric Acquaviva, qui est un compositeur de musique contemporaine, mais qui depuis 10 ans travaille énormément sur Isou et qui publie simultanément à l'exposition et au catalogue, qui à mon sens est pauvre, du Centre Pompidou, une somme aux éditions du Griffon, des éditions suisses, un livre de 280 pages, où là vraiment on comprend absolument tout du lettrisme, tout est expliqué à la fois avec une très grande rigueur scientifique, mais beaucoup de vie, je trouve, beaucoup de simplicité et en plus beaucoup de vérité, parce que par exemple, juste une petite chose qui m'a un petit peu gêné. Bernard Blisten, le directeur du Musée national d'art moderne, dans la préface du catalogue, dit qu'il a été commissaire il y a quelques années, c'était en 2012, au passage de Retz, d'une exposition sur le lettrisme avec donc, le commissaire de l'exposition actuelle. Il oublie Acquaviva, alors qu'en fait, ils étaient deux commissaires, Acquaviva et Blisten, et le commissaire actuel était leur assistant. Lui, Acquaviva, dans son livre, il cite bien les trois. Donc, je pense que la vérité est plutôt dans le livre d'Acquaviva aux éditions du Griffon.
Bon, à compléter donc la visite de l'exposition par ce livre aux éditions du Griffon, l'exposition Isidore Isou, elle est visible jusqu'au 20 mai seulement au Centre Pompidou, catalogue donc édité par le Centre. À suivre, dans cette dispute, nous allons aller au Musée Mayol, au Musée d'art moderne de la ville de Paris et au MEMCO à Genève.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée aux arts plastiques avec la collection Émile Burle jusqu'au 21 juillet, on peut voir cette exposition au musée Mayol. Le commissaire en est Lucas Glor, qui est directeur et conservateur de la collection Émile Burle à Zurich. Les expositions de collection, c'est toujours intéressant. Ça nous renseigne sur l'état des goûts à un moment donné, dans un lieu donné. Alors, il n'y a peut-être pas de véritable surprise à voir cet ensemble de grands noms de l'art français du 19e et début du 20e siècle. C'est la première fois, en tout cas, que cette collection est présentée en France. Une collection, on va revenir sur sa constitution entre 1936 et 1956 à Zurich, donc par Émile Georg Burle, allemand, qui s'était établi en Suisse en 1924. Et à vrai dire, on verra que c'est surtout dans les années 50, le plus grand nombre, en tout cas celle qui précède la mort de Burle en 56, c'est là qu'il acquiert le plus grand nombre de pièces. Premier tour de table pour résumer, synthétiser vos impressions sur cette exposition de la collection Émile Burle au musée Mayol. Corinne Rondeau.
Très brièvement, c'est un camouflet de l'histoire.
Un camouflet de l'histoire, ça vous dites ? Je n'ai pas bien entendu. Sarah Hellermeyer.
J'irai de très belles œuvres, évidemment des chefs-d'œuvre, mais un accrochage qui ne me semble pas très audacieux et pas vraiment rendre justice au regard d'Émile Burle.
Stéphane Coréard.
Oui, effectivement, beaucoup de chefs-d'œuvre, mais qui dressent un portrait contrasté du collectionneur, on va en parler, qui les a rassemblés sur fond de polémique. Il y a eu quelques articles déjà en France, et ça rejoint aussi un petit peu la tribune qu'il y a eu contre Le Corbusier. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est évidemment très sensible à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et les conditions, notamment dans lesquelles cette collection a été rassemblée.
On va évoquer ça dans un deuxième temps, mais peut-être, Sarah Hellermeyer, vous parlez de cet accrochage trop sage.
Oui, il me semble, disons que si je dois rentrer dans le vif du sujet, concrètement l'exposition elle présente un panorama de la peinture française, hein, de la seconde moitié du 19e siècle au début du 20e siècle, avec un très fort tropisme sur les peintres impressionnistes et post-impressionnistes qui sont au cœur de la collection. Donc il y a tous les plus grands noms, Manet, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne, Gauguin et Van Gogh. Il y a également des peintres nabis comme Vuillard et Bonnard, De Fauve, Vlaminck et De Rhin, et puis des cubistes, Picasso et Braque. Il y a également une salle qui est consacrée aux œuvres d'art spoliées, puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 13 des œuvres de la collection Burle ont été identifiées comme telles. Il a donc dû les rendre à leur propriétaire, il en a racheté pour certains, puis il a intenté un procès aux marchands d'art qui lui avaient vendu, ce qui lui a permis en quelque sorte de blanchir sa collection. Et donc dans cette salle qui est consacrée aux arts spoliés, les œuvres en question sont reproduites et il y a le nom de leurs propriétaires initiaux sur le côté. On retrouvera 4 de ces tableaux dans la suite de l'exposition, 2 Degas, 1 Camille Corot et puis un Alfred Sisley. Et par ailleurs, il y a 2 incursions dans des œuvres plus anciennes, avec une peinture de paysage du peintre hollandais Albert Cuyp et une peinture du XVIIe siècle et une vue de Venise réalisée par Francesco Guardi au XVIIIe siècle. Et ce qu'on peut regretter, à mon sens, c'est que ces mises en relation entre peintres dits modernes et peintres plus anciens ne soient pas davantage exploitées dans l'exposition, alors que c'était au cœur de la collection Burle, puisque comme il l'a expliqué Émile Burle dans une conférence de 1954, dont on peut voir le diaporama d'heure à la fin de l'exposition, qui est accompagné du texte. Il a commencé sa collection en s'intéressant aux impressionnistes, qui l'ont conduit à s'intéresser aux post-impressionnistes, puis aux fauves et aux cubistes, mais également à des peintres du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui, par exemple, Franz Hals, Rembrandt, Goya, Géricault, qui en quelque sorte ont annoncé par leur facture et leur style, enfin qui ont anticipé sur la modernité. Et c'est là que la collection Burle est la plus intéressante. intéressante, c'est qu'en fait, elle propose d'une certaine manière une sorte d'histoire de l'art ou de généalogie à l'envers qui éclaire le passé depuis le présent. En l'occurrence, en montrant comment le principe impressionniste du pictural était déjà à l'œuvre dans des œuvres plus anciennes. Et je crois que ça aurait permis d'échapper à un diaporama, à une sorte de panorama comme ça que je trouve quand même un petit peu, même si on est ravi de voir ces œuvres d'art qu'on connaît pour la plupart par reproduction. Malgré tout, je trouve ça un petit peu ennuyeux. Voilà.
Pour rester quand même sur cette collection, ou alors est-ce que c'est possible, Corinne Rondeau, vous n'allez pas être camouflé, mais qu'est-ce que ça raconte sur le goût d'Emile Burle, cette exposition ?
Alors, moi, je ne peux pas raconter son goût, mais ce que je peux dire à partir de l'origine de ma collection, qui est dans le catalogue et qui est effectivement diffusée dans l'exposition, et vous l'avez dit en partie Sarah, donc il découvre son goût serait la révélation des nymphéas de Monet, notamment. Non, pas des nymphéas, de Monet tout court, puis effectivement les grands maîtres de la peinture française, donc on voit qu'il y a quelque chose de l'impressionnisme, et ça il le répète sans arrêt, et puis il y a un trait d'histoire de 36-56, c'est là qu'il commence sa collection, enfin c'est tout à fait en 34, 36-56, puis la vraie collection où il acquiert le plus, c'est que 51-56. Et là, on voit qu'il y a un choix muséal. Parce que ce que vous estimez être quelque chose à rebours et plus intéressant, sans doute, peut-être, aurait pu permettre de découvrir qu'en fait, il n'a pas de goût. Il thésaurise. Et en fait, il veut se tirer la bourre, on a l'impression, avec un musée comme le MoMA qui faisait à peu près les mêmes choix et qui allait chez le même vendeur ou même vente aux enchères et qui travaillait, qui allait chercher aussi des œuvres spoliées. Donc, la question de la vérité en art, elle est problématique. Je trouve qu'elle n'est pas assez traitée. On n'a pas dans le catalogue les œuvres à quel moment il les achète. Ça m'a manqué, ni dans le catalogue, ni dans l'exposition. Je trouve que ça serait intéressant de le rappeler et pas de faire une toute petite salle avec ça lui a été racheté. C'est aussi des juifs qui ont accepté que ce soit racheté, etc. Donc pour moi c'est quelqu'un qui c'est pas un collectionneur ou alors sa collection en termes de personnalité c'est de la thésaurisation.
Stéphane Corrière, c'est vrai que cette provenance des œuvres c'est un sujet sensible. Il a été notamment évoqué largement dans une conférence qui a eu lieu en marge de l'exposition Le marché de l'art sous l'occupation mémoriale de la Shoah la semaine dernière. Il y a plusieurs historiens de l'art qui sont venus sur les conditions. Je vais pas employer de qualificatif. Sur les conditions d'acquisition, je ne voudrais pas quand même risquer des procès en diffamation. Est-ce que ce sujet, je crois qu'on l'a déjà dit, vous semble traité suffisamment au musée Mayol? Je pense qu'on pourrait tout de suite dire que la réponse est non. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette question-là quand on va voir cette exposition?
Effectivement, il ne l'est pas. Je crois qu'au Mémorial de la Shoah, c'est même une exposition qui touche jusqu'au 3 novembre sur
bien
ce
sûr.
Sujet.
Voilà, une conférence qui était en écho à cette exposition. C'est
donc,
ce que je disais.
Je pense qu'on en apprendra beaucoup plus effectivement, sur un sujet sur lequel on est très sensible, notamment en France.
On y consacrera une dispute.
Très bien. Puisque beaucoup justement de marchands, d'artistes, etc., de collectionneurs concernés par tout ça, a été français. Évidemment, ce que on peut dire déjà, c'est que en plus Émile Burle, si je peux dire, c'est une circonstance aggravante. Il était quand même marchand de canons, marchand de morts, ce qui est quand même encore spécial. C'est vrai que il s'est donc énormément enrichi pendant la guerre, parce qu'en 39, sa fortune estimée à 8 millions de francs suisses, en 45 à 170 millions, donc elle multiplié par 20. Ce qui
un marchand de canons quand il y a une guerre mondiale.
C'est voilà, sûr mais que... parce qu'il a quand même participé au réarmement de l'Allemagne avant la guerre, ce qui n'était pas censé être le cas. Et d'ailleurs, après la guerre, ça ira très bien aussi pour lui, puisqu'il va développer son business aux États-Unis, notamment pour la guerre de Corée. Donc, ça ira très bien pour lui jusqu'à sa mort, en termes en tout cas financiers. Ce que Sarah a dit plus ou moins tout à l'heure, c'est effectivement qu'il a rendu les tableaux quand il y a été obligé par la justice. Donc, c'était pas une démarche très volontaire, contrairement à ce que dans l'exposition, la petite salle qui lui est consacrée, effectivement, c'est surtout pour montrer qu'il avait toujours gardé des très bonnes relations après la guerre avec les marchands juifs, principalement, avec qui il pouvait être en affaires, notamment Paul Rosenberg, qu'il leur avait racheté les tableaux. Mais à l'époque, évidemment, ces marchands, eux, avaient tout perdu et n'avait pas d'argent, donc je veux dire, il avait beau jeu évidemment de le racheter, surtout avec de l'argent que la justice lui a rendu, puisqu'effectivement les ventes ont été annulées. Alors c'est vrai que chaque fois, alors l'exposition, la collection ne voyageait pas, puisqu'elle est déposée au Kunsthaus de Zurich, mais là il y a des travaux pour une extension qui va l'accueillir, c'est pour ça qu'elle voyage. Partout où elle voyage, ça a été le cas à Saint-Pétersbourg, etc., le scandale suit. Donc je disais, en France, effectivement, il y a eu des articles qui ne vont pas aussi loin, malgré tout, que ce que les Suisses eux-mêmes en disent. Il y a un professeur de l'université de Lausanne, en Ulrich Jost, qui a écrit, enfin participé à écrire un ouvrage collectif qui s'appelle Le Livre Noir de Burle de Lars Pollier au Kunsthaus de Zurich, et qui dit, j'ai quand même noté sa phrase qui va plus loin que ce qu'on dit aujourd'hui en France, en tout cas sur l'exposition. Dans ces années-là, les gens savaient bien pourquoi tel tableau se retrouvait sur le marché. Dans le doute, la morale aurait voulu qu'ils s'abstiennent de les acheter. Sa période de gloire fut la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il est devenu le plus important fournisseur d'armes du Troisième Reich. Il était du reste lui-même un proche du régime de Hitler. À la fin des conflits, il a aidé des nazis à s'enfuir. C'est encore l'étape après ce qu'on peut lire dans le catalogue et dans l'exposition. Donc je ne sais pas. Je pense que s'ils l'ont écrit, et c'est apparemment un professeur d'université suisse, je pense qu'on peut a priori le croire. Donc effectivement, je pense qu'il faut aller au mémorial de la Shoah pour voir ça. Moi, ce qui m'a intéressé en miroir, si je puis dire, c'est effectivement qu'est-ce que ça dit de lui, de son goût de collectionneur, comment ça se retrouve finalement dans la collection. Et il y a une chose très curieuse dans cette conférence dont on parle depuis le début, parce que c'est la seule fois où il s'est exprimé sur sa vision de l'art et de sa collection, qui d'ailleurs bizarrement s'appelle l'origine de ma collection. Ce qui est curieux, c'est que quand on a une origine entachée de doutes, justement, je trouve ça vraiment un lapsus presque. Et d'ailleurs, à un moment, il dit quelque chose que j'ai trouvé très étrange. Il dit, chacun de nous peut disposer sur les quatre murs de sa maison tout ce qui lui plaît. Personne ne se permettra de faire des objections à condition que les achats aient été effectués en respectant les règles. Donc, je trouve ça incroyable qu'il dise ça. Et effectivement.
En quelle année?
C'est 54. C'est la toute fin. 54. C'est deux ans. Fin, c'est deux ans avant sa mort. 54. Donc, il était quand même très soucieux de l'image qu'il a laissée. Il a une très haute opinion de lui et de sa collection. Il a une vision en bon allemand, naturalisé suisse-allemand, une vision extrêmement ordonnée de l'histoire de l'art et de ses ramifications. Donc pour lui, effectivement, il l'explique, ce sont des ronds concentriques. Lui, il est tombé, entre guillemets, dans la collection par l'impressionnisme, et ensuite ces ronds s'élargissent, et c'est pour ça qu'il va vers le cubisme de manière assez sage s'il va vers le plus contemporain, et qu'effectivement il remonte jusqu'à Franz Hals, Rembrandt, etc., si en revanche il va dans le passé. Il y a quand même deux lignes de force, en tout cas, que moi j'ai identifiées et qui sont duales, justement. C'est ça qui est intéressant par rapport à être marchand de canon et un esthète raffiné. Qu'est-ce que ça donne en fait dans le goût de la collection? Il se déclare lui-même nostalgique de la lumière de l'Île-de-France. Ça va même jusqu'à, je trouve, dans ces 55 tableaux qui sont un extrait de sa collection, jusqu'à une exaltation des plaisirs de la capitale, hein, les petites femmes de Paris, tout ça. La fête foraine, il y a un numéro d'illusionniste, de Vuillard, des confettis de Toulouse-Lautrec, les danseuses au foyer de Degas, donc on voit très bien. Ça va jusqu'à des scènes franchement suggestives, voire transgressives, comme au lit de Toulouse-Lautrec, une scène d'amour lesbien, un nu de Modigliani assez sensuel, la plantureuse source de Renoir aussi. Mais parfois, une certaine ambivalence dans les rapports, je trouve, la vision de la femme, comme dans la Tentation de Saint-Antoine de Cézanne. Mais de l'autre côté, il y a d'autres toiles qui sont beaucoup plus sombres, comme la tour de Van Gogh, une sinistre tour avec des corbeaux qui tournent autour, le mélancolique garçon au gilet rouge, un tableau magnifique de Cézanne, mais Céline de Toulouse-Lautrec, mais surtout le suicidé de Manet, un tableau vers 1877 qui est absolument stupéfiant de noirceur.
Corinne Rondeau, on thésaurise, mais il y a quand même des œuvres à voir dans cette exposition et des choses qui vous ont quand même arrêté, qui vous ont...
J'étais extrêmement contrariée parce que quand on arrive avec ce immense poster de cette photo de Life qui est l'entrée,
Burle, ça m'a... En majesté,
et puis tout de suite, on a des Manets. Des sublimes Manet, le suicidé notamment en est un. Mais en plus, si vous voulez, Manet, c'est le salon des refusés. Donc on nous met là tout de suite, et puis on va nous mettre un cuip qui est un orage. C'est un peintre du XVIIe siècle. Donc il y a quelque chose d'un paysage, où, voilà, il y a un éclair dans le paysage. Là, d'un coup, il y a quelque chose d'une menace, il y a quelque chose d'une noirceur, le suicidé, machin, etc. Bon, moi, ça m'a agacé. Il y a le grand type qui trône au milieu de son appartement et de ses tableaux, la photo. Alléluia, les gens se prenaient en plus en selfie avec. J'avais envie de donner des gifles aux gens. Ce côté, attention, regardez, il est du côté des salons des refusés. Puis après, l'explication de la spoliation. Puis après, allez, on a le musée qui est ouvert. Donc, je peux vous dire que j'ai fait l'exposition dans un état d'agacement profond, où, effectivement, il y a des choses merveilleuses. La Tentation de Saint-Antoine de Cézanne est merveilleuse. Il y a une florifère fruit de Cézanne qui est somptueux à côté d'un Fantin Latour, Pivoine et Pêche. Bien sûr, alors vous faites deux accrochages comme ça, c'est beau, des vanités. Je suis d'accord avec vous qu'il y a quelque chose, il y a quelques tableau sombre qui nous renvoie bien sûr cette situation. Alors on cherche un peu le refoulé à l'intérieur de la collection, mais moi j'ai juste envie de dire, ne me mettez pas une menace au début de l'exposition en disant il est allé chercher des œuvres fortes et voilà, alors qu'en fait il a cherché à être au centre de l'art moderne, point barre, en faisant une grande Kunsthalle qui construit à
Zurich.
À Zurich, entre le bénéfice de l'industrie de l'armement.
Il thésaurise pour vous, Sarah Lermeyer, ou il y a quand même un goût? Est-ce que vous avez trouvé un collectionneur, vous?
Justement, de ce point de vue-là, je suis d'accord pour dire, enfin, je suis complètement Stéphane sur ce qu'il disait à propos de son ambivalence et de son implication dans la vente d'armes auprès des nazis, aussi bien que des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. On pourrait ajouter d'ailleurs dans ce sens-là que le marchand d'art auquel il a intenté un procès, eh bien, dès 1939, il faisait une vente en relation avec le Troisième Reich.
L'art dégénéré.
C'était de l'art dégénéré, voilà. Donc bon, on peut douter effectivement de la bonne foi des Milburg. Par ailleurs, on peut ajouter qu'il était évidemment beaucoup moins audacieux et visionnaire que d'autres collectionneurs, comme par exemple Sergei Chouchkine, puisque toutes les œuvres qu'il achète entre 36 et 56, effectivement, que ce soit des Manet, des Cézanne et autres, eh bien, ne sont plus moquées ou contestées comme il était du temps de leur production, en effet. Néanmoins, je ne ferai pas un procès d'intention sur le fait qu'il serait un simple spéculateur et pas un passionné, parce que je crois, néanmoins, en tout cas, si je me fie à ce que je peux lire dans l'exposition et dans le catalogue, qu'il était vraiment un amoureux de l'art, qu'il a commencé d'ailleurs par des études en histoire de l'art avant de reprendre une industrie en Suisse dont son beau-père avait des parts. Et ce qu'on voit, c'est que par ailleurs, en tout cas, qu'il s'intéressait aussi bien aux œuvres de maturité des peintres qui l'intéressaient qu'aux œuvres de jeunesse qui pourraient témoigner de sa passion, de son goût pour l'histoire de l'art. Notamment, vous avez parlé de La Tentation de Saint-Antoine, qui est un tableau qui date de 1868 et qui est un tableau qui est vraiment caractéristique de la première manière du peintre. Il y a aussi un tableau de 1901 de Pablo Picasso qui montre le critique d'art Gustave Cocchio, et c'est dans un style qu'on connaît pas vraiment à Picasso. Donc je crois que, en tout cas, bon, après on pourrait ajouter que ce goût pour les œuvres de jeunesse, hein, aussi bien que de maturité, il correspond à l'époque à une vision de la création selon laquelle donc chaque protagoniste de la modernité doit œuvrer de manière singulière pour contribuer à l'évolution de l'art moderne. C'est pas une vision effectivement très originale de l'histoire de l'art. Néanmoins, c'est ce qui fait toute sa richesse, aussi bien que ce qui l'amène vers les œuvres d'art du XVIIe et XVIIIe.
Un dernier mot, Stéphane.
Oui, Colard. C'est peut-être ce qui est moderne, c'est quand même sa vision qui n'est pas un collectionneur de trophées, puisqu'effectivement, il s'attache quand il s'intéresse à des artistes qu'il appelle son premier cercle, par exemple, comme Cézanne, à collectionner les œuvres du tout début jusqu'à la toute fin. Ce qui est un peu étrange dans l'exposition, c'est qu'il y a des quasi salles monographiques. Oui. Néanmoins, par exemple, la plupart des Cézanne sont au rez-de-chaussée, alors qu'il y en a deux ou trois en haut, et je regrette qu'ils ne soient pas allés plus loin dans cette logique monographique qui aurait là peut-être ouvert sur un regard un peu plus singulier sur la collection.
Bon, encore une fois, c'est un bout de la collection. Vous voulez dire un mot, Corinne? Non, mais il y a un coup de cœur qui suit.
Le caillou dans l'eau, c'est une image de Hegel qu'il a pris, puisqu'il a fait aussi des études de philo, donc je pense que c'est... Aucune idée, cet homme-là.
Ah là, vous l'adorez.
Non, mais
vous
les l'adorez. Purges, c'est 37. Les purges des musées de l'art dégénéré, c'est 37. Donc tout le monde le savait en 39. Donc.
On est bien, oui, non, mais ça, c'est donc, certain. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Ouais, ouais.
Bon, vous irez voir à Zurich, quand il y aura toute la collection, pour savoir s'il y a un regard, s'il y a un choix. En tout cas, pour l'instant, c'est une sélection. On a essayé de vous donner le contexte le plus global pour paraître cette exposition au Musée Mayol. La collection Émile Bourle, c'était à voir jusqu'au 21 juillet. Il y a un catalogue qui est publié chez Gallimard. C'est l'heure du coup de cœur. Ça a changé après ce coup de gueule de Corinne Rondeau, un coup de cœur pour René Daniels. C'est une exposition à voir au MAMCO à Genève jusqu'au 5 mai qui s'appelle Fragments from an Unfinished Novel. Autant dire un fragment d'un roman infini. Corinne Rondeau.
Alors si vous ne l'avez pas vu au Vils, vous pourrez l'avoir au MAMCO, mais avec un nombre de pièces supplémentaires, donc elle est un peu plus grande. Donc c'est un artiste néerlandais, il a beaucoup produit entre 77 et 87, malheureusement il a eu un AVC en 87, il reprendra la création en 2006, et donc on voit aussi dans l'exposition ce qu'il fait aujourd'hui. Il est aphasique, il a appris à dessiner de la main et à peindre de la main gauche. Donc... travail formidable, étonnant, détonnant. Il vit à Eindhoven. Il est dans la ville du siège de l'entreprise Philips, donc il voit les premiers concerts des Sex Pistols, des Talking Heads. C'est quelqu'un qui filme les concerts, et c'est pas inintéressant parce que la première sculpture, c'est un pinceau qui traverse un vinyle, et à côté vous avez un tableau où vous avez une sphère avec un cercle autour et un petit satellite, et vraiment c'est lui, la petite lune à côté de cette grosse terre, on va dire, c'est lui, c'est un satellite qui tourne autour de la sphère et du monde de là, et on va voir là, je dirais, une sorte de machine qui mange la question de l'art en termes de forme. Je dirais que des artistes comme Baselitz, dont il expose en même temps, s'en prend un peu dans la figure, donc il fait des personnages avec des barbes qui sont remontées, vous savez qu'il peint à l'envers, mais il les met à l'endroit, il les remonte. Enfin, je dirais qu'on retrouve de l'art à l'intérieur de son art, mais ça fait partie, je dirais, de sa pratique qui consiste à être dans un jeu autoréférentiel par le biais du signe. Il y a des motifs qui reviennent, des rats, des skateboards, des poissons qui se mangent entre eux, des rats skateboarders qui se mangent entre eux, des lits, des nuits de Piccadilly notamment. Et donc ce jeu autoréférentiel dans l'art est aussi un jeu autoréflexif de sa propre œuvre. Et c'est extrêmement stimulant parce qu'on voit ce type en train de travailler tout le temps. Il a un œil qui est performatif comme il regarde ses concerts. Il a quelque chose d'un processus anthropique de son travail parce qu'on voit qu'à la fois il a des intentions de la représentation liées à l'histoire de l'art, et en même temps il va se mettre avec une énergie, une vitesse prodigieuse à défaire cette question-là. Donc il est à l'intérieur et à l'extérieur de la représentation de l'art. C'est à la fois abstrait et figuratif. Et là, il y a la grande série Belles Expositions, parce que si on le connaît pas, on connaît peut-être ces tableaux où il y a comme un nœud papillon, et en fait c'est une ouverture perspective de trois murs où il va travailler sur des jeux de fenêtres, et donc en fait c'est aussi une manière de... Il y a un tableau qui s'appelle Continuant vers l'extérieur, mais on peut se dire qu'il faut y aller parce que Continuant vers l'extérieur, c'est nous.
René Daniels, c'est le nom de cet artiste actuellement exposé au MAMCO à Genève, à voir jusqu'au 5 mai.
France Culture, la dispute. Arne Laporte. Get the right.
La dernière exposition à notre sommaire, c'est celle de Thomas Hausego, Almost Human, presque humain donc. Avant jusqu'au 14 juillet au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, Olivia Gauthier, Jean Roy en est la commissaire, Cécile de Gauss la scénographe. Sarah, avant de parler de l'exposition elle-même, petite présentation de ce Thomas Hausego.
Alors, Thomas Hausego, je prononce comme ça.
Ouais, moi, j'ai changé, en fait. Je disais Hausego, on m'a dit non, il faut dire Hausego, alors bon.
En tout cas, c'est un artiste britannique qui est né donc à Leeds en 1972. Il vit depuis 2003 à Los Angeles et il connaît depuis une dizaine d'années une reconnaissance internationale, puisqu'il est représenté par les plus grandes galeries comme Gagé-Ossian, les plus grandes fondations comme Louis Vuitton et Pinault. Et donc, son travail est essentiellement sculptural, parfois pictural, c'est ce qu'il y a de pire, d'ailleurs, chez lui. Et ça tourne autour de la figure humaine, compris comme corps dans l'espace, avec des postures de déploiement ou de repli. Et chacune de ses œuvres, en fait, est une sorte de synthèse, de référence à l'histoire de la modernité et de l'art dit primitif, avec de très nombreuses allusions directes ou indirectes, aussi bien à Giacometti, Rodin, Brancusi, Picasso, mais aussi au futurisme et à des artistes contemporains comme Baselitz ou Dieter Appel, un actionniste viennois. Et c'est un peu tout le problème, c'est que ça produit, du moins à mon sens, des œuvres qui sont faussement audacieuses, sans la moindre radicalité, puisque en fait elles se contentent de faire la synthèse sur un registre monumental de conventions et de formules éculées.
Là, vous avez dépassé la présentation. Là, vous êtes déjà dans votre avis. Là,
tu pouvais avoir deux minutes. Donc,
non, mais c'est une présentation.
Mais une présentation, je fais pas le parcours de l'expo, je laisserai ça à Stéphane. Mais donc, en fait, elle me semble qu'elle séduise facilement, et flatte, la culture du spectateur. Moi, la première. Mais en fait, elle tourne un peu à vide, sinon autour d'une mythologie de l'artiste elle-même un peu éculée, qui serait l'artiste génie en proie à ses démons et à ses pulsions, dont l'art serait la catharsis, en fait.
Thank you. premier commentaire sur l'exposition Thomas Hausego au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Bon, Sarah l'a fait. Stéphane Goréard.
j'ai dit sur la...
Une phrase, hein.
Ah! Ben, j'ai dit sur les réseaux sociaux que ça me paraissait testostéroné. Et bizarrement, tout le monde a cru que c'était positif. Comme quoi, et je pense que la sculpture entraîne,
un malentendu.
Un malentendu parce que on connaît la phrase du sculpteur minimal Karl André qui a dit j'ai mis Priap à terre. Et là, Hausego, effectivement, lui entreprend de le relever. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, quand je disais testostéroné, je voulais dire bodybuildé. Voilà, comme on le dit des vins qui n'ont pas digéré leur élevage, qui manquent de finesse et sont trop titrés en alcool.
Corinne Rondeau, premier regard synthétique.
Caca boudin.
D'accord, ça c'est très synthétique. La prochaine fois, ce sera encore mieux avec une phrase. Alors comment on développe ça, Stéphane, le parcours de l'exposition Musée d'art moderne de la ville de Paris?
Alors l'exposition commence dès l'extérieur, dès les abords du musée, puisque sur le parvis entre le palais de Tokyo et le Musée d'art moderne de la ville de Paris, il y a un bassin d'eau et au milieu de ce bassin, il y a une sculpture. Ah bah non finalement, non, elles n'étaient pas disponibles. Donc il y a une sculpture monumentale qui s'appelle Striding Figure 2, Ghost, de 2012, qui est une sorte de réplique d'une des œuvres emblématiques de l'artiste qui est à l'intérieur, L'Homme pressé, 2010-2011, dont on nous précise plusieurs fois dans le catalogue de l'exposition qu'il avait été révélé à l'occasion de la Biennale de Venise devant la collection Pinault au Palazzo Grassi. Puis viennent à l'intérieur, une fois qu'on rentre, hein, si on a été attiré par cette sculpture, ou si c'est un devoir comme pour nous, quatre sections qui répondent à l'évolution du travail d'Hausego tel qu'elle est perçue par Fabrice Ergot, le directeur du musée, qui dans son introduction la résume ainsi. En l'espace de 20 ans, il est passé des figures aux masques, des masques aux constructions, des portes et environnements architecturaux aux installations. Et bien c'est exactement le parcours de l'exposition. Donc la première salle s'intitule Figures humaines, c'est globalement des œuvres qui s'étalent entre 1995 et 2008. C'est ce qu'a décrit effectivement Sarah, qui est un peu les fondamentaux de l'artiste, des personnages pleins et vides, en volume et plat, si on peut dire, tout ça à la fois. Oui, c'est le en même temps de ce goût qui porte beaucoup de traces de la présence de l'artiste, puisqu'il insiste sur la dimension performative de sa sculpture, mais aussi de la structure même et du travail du sculpteur. Il y a des brins de chanvre dans le plâtre, etc. Et là, on est plutôt effectivement chez Picasso, Rodin et Giacometti, comme vous l'avez dit, Sarah. La deuxième salle s'intitule Hybride. C'est la période qui suit, 2010-2015, des formes deviennent plus complexes, ornementales, jouent éventuellement avec le décoratif, l'orne vers l'architecture, et là on est plutôt chez Brancusi, pour vous dire les choses simplement. Ensuite il y a les Diables et Démons, là on rentre vraiment dans le cœur du sujet, une salle de vanité, donc avec cette grande ligne de peinture noire, ce qui effectivement fait dire à ma collègue Sarah que Hausego ne sculpte pas que des horreurs, il en peint aussi. Là, il y a un gisant en bois, la tronçonneuse façon Baslitz, cette fois. Et puis, on finit l'apothéose, c'est l'atelier 2018. C'est à la fois le creuset, la trace de la performance et l'intimité, puisque ses œuvres sont réalisées en collaboration avec sa compagne, Mouna Elfitouri.
Alors, c'est vrai que pour révéler les coulisses de cette émission, Sarah, vous disiez qu'avant cette exposition, vous pensiez peut-être apprécier Thomas Hausego ou Seago, on dit comme on veut. Et que cette exposition, en fait, vous a fait peut-être prendre la mesure véritable de l'artiste.
Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, je pensais aimer Hausego, et il se trouve que c'est finalement pas le cas.
Comment vous expliquez ça? C'est parce que on en voit un par-ci, par-là, en fait, dans une biennale, ça va.
Ça produit un effet qu'on connaît pas, qu'on le voit pour la première fois, mais que parce que juste tout son travail consiste en fait à mettre en contraste, hein, comme c'est bien rappelé dans l'exposition et dans le catalogue, une impression de solidité et de force, hein, qui est liée aux proportions généralement colossales, hein, des figures, mais aussi il y a une dimension héroïque de ces figures, puisqu'elles sont souvent à la verticale, en marche. Et donc, c'est de mettre en contraste cette dimension, cette impression de force et de solidité, avec une impression de fragilité structurelle. Parce que quand on tourne autour d'elles, ce qu'on découvre, c'est qu'elles sont soit évidées, puisque ça peut être des moulages de corps, ou qu'elles sont parfois totalement plates, comme lorsqu'elles sont composées de morceaux de bois ou de contreplaqué sur lesquels l'artiste dessine. Et cette mise en tension, qui est en fait une manière d'exprimer une condition humaine qui serait instable, je dois dire que je la trouve dans un premier temps assez intelligente, que je trouve qu'elle peut produire un effet la première fois qu'on voit les œuvres d'Hausego, mais que au fil de l'exposition, là, en étant confronté vraiment à ces pièces, ça perd de son impact et ça devient quasiment une formule en fait toute faite, hein, rhétorique, hein, qui produit peu d'effet. Voilà, c'est mieux.
Est-ce que c'est cette efficacité, alors peut-être Corinne Rondeau qui explique ce succès, alors vous disiez international, enfin surtout à Los Angeles, moi j'ai quand même l'impression, de Thomas House Ago, dont j'ai vu, il montrait des photos sur l'un des réseaux sociaux du musée du jeu de paume, il y avait Brad Pitt qui est venu voir son copain Thomas, entre vedettes. Corinne Rondeau, il y a quelque chose de séduisant?
Non, c'est réactionnaire, c'est totalement réactionnaire, c'est pour ça que je dis caca boudin. Pour faire court, comme ça on rattrape le temps de Sarah. Non, moi je trouve que... Vous savez, Izou disait finalement, c'est pas la forme qui est primordiale. Parce qu'il veut pas être reproductible. Il veut pas être reproductible. Et en fait, il ne fait que de la reproduction à House Ago. Et autrement dit, c'est un art réactionnaire parce que c'est la conservation de la reproduction. Et ce qu'on voit tout le long, dès qu'on entre, on se dit « Oh tiens, il y a du Giacometti là, oh bah tiens, là il y a de l'art déco, oh le monumental avec la fragilité, oh voilà une nouvelle version du monumental, mais fragile, il m'y va comment ? À la tronçonneuse, testostérone, évidemment. Et à la fin, on a caca boudin parce qu'il fait des gros boudins d'argile, mais il se jette dans son corps, et en plus, comme il est bien gaulé, il est gaulé un peu si on l'a pas vu, comme Brad Pitt, c'est pour ça qu'ils doivent être potes. Et donc, ils se jettent dans la
coach. Ils ont le même coach. Ils ont le même coach.
Ouais, c'est ça, ils doivent être le même coach. Donc, en fait, si vous voulez, c'est une posture d'imposture. Et je pense que acheter des choses qui se reconnaissent pour des gens qui ont beaucoup d'argent, comme Émile Burle, eh bien, ça pose pas de problème pour le milieu aujourd'hui. Donc pour moi, c'est réactionnaire, c'est de la reproduction, même s'il y a effectivement cet enjeu du dessin et de la sculpture, s'il y a cet enjeu d'articuler la sculpture et l'architecture, la sculpture et la performance, qui en soi sont des intérêts comme ça qui sont lancés en termes de propositions. Mais quand vous lisez le catalogue, vous avez déjà Hervé. Monsieur Fabrice Ergot, qui a plutôt tendance à être extrêmement discret, nous dit comment il l'a rencontré, il est allé le voir, etc. Il était avec le président de l'association des amis. Voilà, il a mis 5 ans finalement à bien réfléchir qu'il y avait de l'art déco à côté du, enfin, dans le musée de la ville de Paris finalement. Je pense qu'il est très très malin à House Ago. Donc moi je et quand on lit où il connaît la sculpture moderne sur le bout des doigts, j'ai envie de pleurer quand je lis ces textes là.
Alors, il y en a qui trouvent que la testostérone, ça paye. Dans un quotidien du soir français, il y a quelqu'un qui est très sensible à cet art. Il dit que oui, c'est normal, ça plaît pas ça déplaît au milieu très casanier du monde de l'art. Mais c'est une force terrible, vous le sentez,
c'est évidemment le contraire. C'est-à-dire que la clé de l'exposition, elle est juste avant la fin. Dans l'avant-dernière salle, il y a un grand mood board qui est la reproduction de son mood board, qui est donc son tableau d'humeur qui est dans son atelier. Et donc là, il y a toutes ces références, mais donc surtout ce dont on a parlé, mais aussi des films de Kubrick, etc. Mais il y a quand même surtout des œuvres de lui. Et en fait, évidemment, c'est ça en fait, son exposition est un gigantesque mood board, son art est un gigantesque mood board qui est entre le menu best-of, la sculpture moderne et contemporaine pour les nuls et un postmodernisme qui confine au plagiat. Moi ce qui m'a marqué dans cette exposition en fait, au-delà de l'œuvre, c'est le symptôme vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'il y a deux points saillants qui à mon avis sont extrêmement problématiques. Le premier, c'est que ce musée d'art moderne de Paris est en train de devenir une espèce de lessiveuse pour le marché spéculatif. On a déjà vu après Zaouvouki quand même, où je rappelle que dans le catalogue Fabrice Ergot justifie l'exposition par le fait que l'artiste fasse des records en vente aux enchères, ce qui à mon avis est une première mondiale. Là, tous les cartels et le catalogue ne parlent que des galeries, effectivement, et de ces galeries très puissantes. Et d'ailleurs, Sarah, vous-même avez repris cette litanie donc du marché et des grandes fondations, etc. En fait, House Ago, c'est un artiste qui correspond à 100% à ce qu'on appellerait le goupinot, c'est-à-dire du monumental, taraudé par des grandes questions existentielles dans les pas de ses prédécesseurs. Et l'autre chose, c'est le catalogue, effectivement, qui donne la clé, c'est un modèle de légitimation et d'entre-soi, parce qu'il y a des multitudes de textes, il y a 25 textes dans ce catalogue, ce qui est quand même assez rare. Il y a effectivement quand même deux textes de commissaires et de critiques, mais il y a aussi un cinéaste, James Gray, un acteur, Brad Pitt, un musicien, Kamasi Washington, des artistes, alors qu'on a connu mieux inspirés, il y a Ian DeBates, Lana Simpson, David Hockney, Paul McCarthy, immense entretien, et certains ont manifestement pensé qu'on leur demandait plutôt une lettre de recommandation, puisque David Hockney, par exemple, finit son texte en disant « Cet artiste est un véritable atout supplémentaire pour Los Angeles ». Donc là, je pense qu'il va certainement, ça va être pour un agent immobilier.
Il y a aussi cette phrase, l'art lui a sauvé la vie.
Mais pas la nôtre. Et Yann Dibetz, qui a été son professeur, termine en disant « J'ai vu Thomas Hausegaud de chenille devenir papillon. Et depuis, le beau papillon a parcouru son propre chemin. » Maintenant, le problème, justement, c'est qu'il ne parcourt pas son propre chemin. Il emprunte le chemin des autres jusqu'au mimétisme. On pense aussi à Bruce Neumann, un nom qu'on n'a pas cité et que pourtant, manifestement, l'inspire énormément. Donc, non, carton rouge pour Thomas Hausegaud.
Bon, suivez les balises pour aller voir Thomas. On peut ne pas recommander une exposition par semaine. La semaine dernière, c'est tout en gamon, n'y allez pas. On se fait insulter, après on dit « Mais pourquoi ? C'est très bien. On voit très bien tout en gamon. » Allez voir, on voit très bien les sculptures de Thomas Hausegaud dans l'exposition « Presque humain ». C'est son titre, hein. Almost Human.
Presque artiste.
Jusqu'au 14 juillet au Musée moderne de la ville de Paris, un catalogue d'édition Paris Musée. C'est l'heure du jeu, de la dispute. C'est l'heure de gagner. Mais d'abord, on va se rappeler avec Joséphine Dumoulin de la question d'hier au soir et enfin connaître la réponse, Joséphine.
La question était: dans laquelle de ses œuvres Hervé Guibert livre-t-il sans concession les dernières images de sa séropositivité? Et la réponse était: La pudeur ou l'impudeur.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour aller voir un film qui s'appelle Los Silencios, qui est sorti aujourd'hui dans les salles, un film de Béatrice Seignier dont nous parlerons demain et que je trouve être un très beau film. Quelle est la question, Joséphine?
Quel film colombien racontant la rencontre entre un chaman et un ethnobotaniste a lancé la carrière internationale de son auteur?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont envoyées par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. La prise de son Nasser Moussaoui, réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain, rendez-vous bien sûr à 19h pour une dispute consacrée à la bande dessinée en compagnie de Catherine Robin, Antoine Guillot et Victor Massé de l'Épinay. À notre sommaire, portrait d'un buveur de Schroen, Rupert et Mulot. Cassandra Drake, Dark de Pussy Simons, Saint-Rose à la recherche du dessin ultime de Micole, et puis un coup de cœur d'Antoine Guillot pour des expositions Blutch à Strasbourg et le livre de dessin qui en fait le catalogue.